Chapitre 74. Les choses demeurèrent encore quelque temps en cet état. Mais tout à coup, César eut avis que Péluse, où était le fort de l'armée égyptienne, venait de tomber aux mains d'un de ses lieutenants. En effet, Mithridate de Pergame, que César considérait fort pour sa valeur et son expérience dans les armes, était arrivé par terre avec de grandes forces de la Syrie et de la Cilicie. Dépêché par César dès le commencement de cette guerre, qui durait déjà depuis 7 mois, il avait fait un appel à l'affection des peuples alliés et revenait avec une 20 000 hommes. Or, ayant compris que Péluse était la clé de la terre, comme Alexandrie était celle de la mer, il attaqua Péluse avec tant de vigueur qu'au 3e ou 4e assaut, il la prit. De là, et après avoir laissé garnison dans la ville prise, il tira vers César et subjugua tout le pays par où il passa. Arrivé au delta, il se vit en face d'une partie de l'armée de Ptolémée. Ce n'était que la moitié des troupes envoyées par le jeune roi. Mais pour avoir toute la gloire, cette partie de l'armée, qui était venue par le Nil et en avait suivi le cours, voulut donner seule, n'attendant pas, comme l'avait recommandé le roi, la seconde partie qui venait en suivant la rive. Mithridate se retrancha selon la coutume romaine. Les Égyptiens crurent qu'il avait peur et fondirent de tous côtés sur le camp. Alors, les voyant venir inconsidérément à l'attaque, Mithridate sortit à la fois par toutes les portes de son camp, les enveloppa et les tailla en pièces. De sorte que, sans la connaissance des lieux et le voisinage de leurs navires, ils fussent tous restés sur le champ de bataille. César et Ptolémée furent avertis en même temps, et tous deux, en même temps, partirent avec toutes les forces dont ils pouvaient disposer. L'un, César, afin de poursuivre sa victoire, l'autre, Ptolémée, afin de réparer sa défaite. Ptolémée arriva le premier, s'étant embarqué sur le Nil, où il avait sa flotte toute prête. César eût pu prendre aussi cette route, mais il ne le voulut point, de peur d'être obligé de combattre sur des vaisseaux et dans le canal d'un fleuve, sorte de guerre qui lui enlevait cet imprévu de mouvement qui faisait sa force. Mais, quoiqu'arrivant après Ptolémée, César était en retard de si peu de temps que le roi n'avait pas encore pu attaquer Mithridate. En voyant arriver César, ce fut le roi d'Égypte qui se retrancha à son tour. L'endroit où se retranchait Ptolémée était des plus avantageux. D'un côté, il était défendu par le Nil, de l'autre, protégé par un marais, de l'autre, enfin, bordé par un précipice. Si bien que le camp n'offrait qu'une seule entrée, étroite et difficile. C'était celle qui donnait sur la plaine. César marcha sur le camp. Mais, à moitié de cette marche, en arrivant au bord d'une rivière, il trouva cette rivière, défendue par la fleur de la cavalerie égyptienne et par une partie de l'infanterie légère de Ptolémée. Là, on escarmoucha un instant de part et d'autre, sans pouvoir en venir sérieusement aux mains, les deux berges de la rivière étant trop escarpées. Mais les soldats de César, impatientés, demandèrent les haches. On leur apporta les haches. Alors ils se mirent à abattre les arbres qui bordaient la rivière, les poussant du côté du courant, afin qu'ils formassent des ponts. Puis les arbres abattus, au milieu des branches, dans l'eau jusqu'à la ceinture, ils passèrent. Pendant ce temps, la cavalerie germaine avait remonté la rivière et, trouvant un guet, l'avait passé. Se voyant attaqué de face et tourné par la droite, l'ennemi prit la fuite. César, qui n'était qu'à 1 lieue et demie du camp égyptien, donna ordre d'y marcher tout droit. Son intention était de profiter du trouble où devait être l'ennemi et de l'attaquer à l'instant même. Mais en voyant la force de son assiette, la hauteur du retranchement, l'avantage de la situation et tout le rempart bordé de soldats, il remit l'assaut au lendemain, ne voulant pas hasarder contre des troupes fraîches ses troupes fatiguées, tant du combat que d'une marche de plusieurs lieues. Ayant donc examiné le terrain avec ce regard, auquel rien n'échappait, il résolut d'attaquer le lendemain au point du jour un fort qui se reliait au camp par un grand retranchement. Dès l'aube, son armée étant sous les armes, non point qu'il comptât attaquer ce fort avec tous ses soldats, mais il voulait que toutes ses forces fussent prêtes à attaquer le camp sur le point qu'il indiquerait. Les soldats, comme si César eût à chacun d'eux, en particulier, expliqué le plan de la bataille, marchèrent au fort avec une telle résolution qu'ils l'emportèrent d'assaut. Puis, l'ayant emporté, ils s'élancèrent tout d'une haleine jusqu'au retranchement de l'ennemi, où commença le véritable combat. Ce camp, nous l'avons dit, n'était réellement attaquable que du côté de la plaine, et naturellement, de ce côté, l'ennemi avait massé ses meilleurs soldats. Cependant, dans une reconnaissance qu'il avait faite, César avait remarqué un étroit passage se glissant entre le Nil et le camp. Mais alors, les soldats de César auraient à dos toute la flotte. Aussi, César avait-il négligé ce moyen d'attaque. Or, voyant que les attaques de front n'avaient aucun résultat, il appela à lui un de ses capitaines les plus expérimentés, nommé Carthulénus, lui exposa la situation et lui demanda s'il voulait se charger de l'attaque par le Nil avec un millier d'hommes. Celui-ci répondit qu'il était prêt. César ordonna donc de redoubler d'efforts du côté de la plaine, tandis que Carthulénus et ses 1000 hommes se glissaient sur le rivage du Nil. Or, il arriva que les soldats chargés de garder ce côté du camp, se croyant gardés eux-mêmes par la flotte, étaient descendus, soit par curiosité pour voir le combat, soit par vaillance pour y prendre part, quand tout à coup, ils entendirent un grand bruit derrière eux. C'était Carthulénus qui, n'étant arrêté que par les traits qu'on lui lançait de la flotte, avait passé outre, était arrivé au sommet des retranchements, les avait trouvés déserts et, ayant pénétré dans le camp, attaqué l'ennemi en queue. Quand les Romains entendirent, de l'autre côté de ceux qu'ils combattaient, les cris de victoire de Carthulénus et de ses compagnons, ils redoublèrent d'efforts. Troublés à leur tour par cette attaque imprévue, les Égyptiens faiblirent. César vit que le moment était décisif. Il se mit à la tête de 20 cohortes qu'il n'avait pas encore données et chargea comme un simple capitaine. L'ennemi ne put soutenir cette dernière attaque. Il abandonna ses remparts et essaya de fuir. Mais ce qui faisait sa force victorieux fit sa perte vaincue. Les premiers qui essayèrent de se sauver par les marées se noyèrent dans la boue. Du côté du précipice, il n'y fallait pas songer. Restait le Nil. Chacun se précipita donc vers le Nil, le roi comme les autres. Le roi gagna un vaisseau et lui ordonna aussitôt de s'éloigner du rivage. Mais la foule qui l'accompagnait l'encombra de telle façon, ceux qui étaient à la mer s'y réfugièrent en tel nombre qu'en arrivant au milieu du Nil, l'eau le gagna et qu'il s'engloutit. Ptolémée et ses principaux officiers se noyèrent. La guerre d'Égypte était terminée. 1850 ans après, un autre conquérant livrait, sur les bords du même fleuve, une bataille à peu près pareille. Cet autre conquérant s'appelait Napoléon, cette autre bataille, celle des pyramides. Elle livrait le Caire à Napoléon, comme celle-ci livrait Alexandrie à César. Et, en effet, César marcha immédiatement sur Alexandrie. Mais cette fois, il ne s'amusa point à rentrer péniblement par le port. Il résolut de passer à travers la ville. Le bruit de sa victoire l'y précédait, brisant les portes, renversant les remparts. Par malheur, le petit roi Ptolémée lui avait échappé par la mort, mais il ramenait Arsinoé captive. Ce que César avait prévu arriva. À peine fut-il en vue de la ville que les habitants sortirent en équipage de suppliants et faisant porter devant eux les choses sacrées avec lesquelles ils avaient coutume d'apaiser leurs rois irrités. César pardonna comme à son ordinaire. Il traversa toute la ville d'Alexandrie, la ville aux larges rues tirées au cordeau, au milieu d'une double haie d'hommes et de femmes à genoux. Arrivé aux remparts élevés par les Alexandrins, il trouva ceux-ci la pioche à la main, occupés à lui ouvrir une brèche. Il reparut donc à la vue des siens en véritable vainqueur, Cléopâtre l'attendant et le saluant du sommet de la plus haute tour. Ce fut une double fête au camp, et à cause de la victoire complète, et à cause du prompt retour. César, malgré ses 54 ans, était donc toujours le même, le César des Gaules, le César de Pharsale, et même encore le César des aventureuses amours. Ses soldats, qui avaient tant murmuré contre Cléopâtre, applaudirent à pleines mains quand ils virent la jeune et belle reine enlacer de ses bras le cou de leur impérator et déposer sur sa tête une couronne de laurier d'or. Alors commencèrent les fêtes dans le palais, les jeux dans le théâtre. César inaugurait la future royauté d'Antoine. Puis il fallait bien faire connaissance avec la nouvelle conquête que César venait d'annexer à Rome. Il fallait bien visiter les pyramides, ces monuments qui, il y a 2000 ans, étaient déjà un mystère. On remonta le Nil sur la galère même du roi Ptolémée, toute parée de guirlandes de fleurs le jour, toute illuminée de guirlandes de flammes la nuit. 400 autres galères remontaient le fleuve à leur suite. Ce fut là le véritable triomphe de César. Pendant cette marche, il faisait bâtir le temple à l'indignation, à la place même où Pompée avait été tué. Mais pendant cette marche aussi, le monde, mal enterré, se remuait comme Encelade. Les lieutenants de Pompée se réunissaient en Afrique autour de son beau-père Scipion. Les deux filles de Pompée appelaient l'Espagne aux armes au nom de la mémoire de leur père. Pharnace enlevait au roi Déjotarus, vaincu que César avait doté comme un vainqueur, la petite Arménie. Ariobarzane venait se plaindre à Calvinus que le fils d'un Mithridate prenait la Cappadoce. Et toutes ces nouvelles arrivaient à César, et comme s'il eût voulu laisser à ses ennemis le temps de se rassembler pour les anéantir d'un seul coup, à chaque nouvelle il souriait, faisait un signe de tête, et répondait à Cléopâtre « Allons !» Et Cléopâtre souriait à son tour, fière de tenir la chaîne du lion. Enfin, on revint à Alexandrie. Le magique voyage était achevé. Il s'agissait de faire face au monde. César rallia ses troupes. Voici les forces dont il croyait pouvoir disposer. Avec lui, 20 000 hommes à peu près. Une légion que lui envoyait Calvinus et qui, prenant la route de terre, n'avait pu arriver à temps. Une que Calvinus avait gardée et que rallierait César s'il commençait par Pharnace. Deux autres, armées et équipées à la romaine, qu'il trouverait chez Déjoratus. Enfin, une dernière que Caius Plétorus avait levée dans le royaume de Pont. Mais un matin arriva la nouvelle que Domitius était fait battre par Pharnace et que, de toutes ses forces, restait seulement la 36e légion à peu près intacte. À la suite de cette victoire, Pharnace ne douta plus de rien. Il s'empara du pont, il choisit tout ce qu'il y trouva d'enfants et d'adolescents jeunes et beaux, dont il fit des eunuques. Enfin, il s'écria tout haut et à la face du monde que justice était faite par les dieux et qu'il avait reconquis le royaume de son père. Force fut à César de quitter l'Égypte. Il maria Cléopâtre avec son plus jeune frère, âgé de 11 ans. Puis, laissant la moitié de ses troupes aux nouveaux époux pour maintenir la tranquillité dans leurs états, il prit le chemin de la Syrie en donnant dans 4 mois rendez-vous à Cléopâtre à Rome. Tout le long de sa route, César était rejoint par des envoyés de toutes les provinces qui tous lui apportaient des nouvelles plus ou moins mauvaises. Gabinius avait été battu en Illyrie. Il avait perdu 2 000 soldats, 38 centurions et 4 tribuns. Une légion s'était révoltée en Espagne et Cassius Longinus avait failli mourir assassiné. Marcellus avait été battu sur les bords du Guadalquivir. Enfin, Rome était pleine de troubles suscités par les tribuns. Il fallait anéantir Pharnace, revenir à Rome, soumettre l'Afrique, resoumettre l'Espagne. César laissa Sextus César, son parent, en Syrie, s'embarqua sur la flotte qu'il avait amenée d'Égypte et passa à Tarse, où il avait donné rendez-vous à toute la Cilicie, régla les affaires du pays et celles des États voisins, traversa la Cappadoce à grande journée, séjourna 48 heures à Massaque, établit Nicomède de Bithynie, pontife du temple de Bellone à Comane, reçut la soumission du vieux roi Déjotarus, lui prit une légion, arriva au royaume de Pont, réunit à la vieille légion qu'il avait amenée d'Égypte les débris des légions de Domitius, défaites par Pharnace, joignit celui-ci près de la ville de Zélie, l'anéantit en une seule bataille et reprit le chemin de Rome en disant « Heureux Pompée, voilà donc les ennemis dont la défaite t'avait valu le nom de grand. » Ces trois mots, qui racontent toute sa campagne contre Pharnace, l'avaient précédé au Capitole. « Veni, vidi, vici. » En arrivant à Rome, il apprit que Cléopâtre venait d'accoucher d'un garçon auquel les peuples donnaient le nom de Césarion. Or, avant le retour du vainqueur de Pompée, Antoine et Dolabella avaient un instant failli s'entendre sur ce point qui leur allait si bien à tous deux de l'abolition des dettes. Mais Antoine prit un soupçon contre Dolabella. Il le soupçonna d'être l'amant de sa femme. Il commença par répudier celle-ci. Puis, comme Dolabella, pour faire passer sa loi, s'était de force emparé du forum et que le Sénat avait rendu un décret qui ordonnait de prendre les armes contre Dolabella, il alla, plein de colère et de haine, attaquer sur la place publique celui qu'il regardait comme son rival, lui tua beaucoup de monde et perdit lui-même quelques-uns des siens. La chose dépopularisa quelque peu le descendant d'Hercule. D'un autre côté, Antoine, en s'aliénant le peuple, trouvait moyen de se faire des ennemis dans la noblesse. La maison de Pompée avait été mise aux enchères et vendue. On n'avait pas perdu de temps, comme on voit. Antoine avait acheté la maison de Pompée, Antoine achetait toujours. Mais quand il s'était agi de payer, Antoine avait trouvé fort mauvais qu'on lui réclamât le prix de cette maison, qu'à son avis, il avait bien gagné à Farsal. Aussi déclara-t-il que, puisque c'était ainsi que l'on récompensait ses services, il ne suivrait point César en Afrique. Ce qui l'exaspéra surtout, c'est que, comme il ne payait pas la maison de Pompée, on finit par l'en exproprier et la juger à Cornificius. Cornificius ne la trouva point assez grande ni assez belle pour lui. Il la fit abattre et, sur l'emplacement, en construisit une autre. En somme, les Romains étaient indignés de toutes ces prodigalités, de toutes ces bacchanales, de toutes ces ivrogneries. César arriva. À son aspect, tout rentra dans l'ordre. Dolabella remit au carton ses projets d'abolition de dette, Antoine fit trêve à ses folies, Cornificius se hâta d'achever sa maison. César fit grâce à Dolabella en considération de son beau-père Cicéron. Quant à Antoine, qui espérait être nommé consul avec lui, il lui fallut renoncer à cet espoir. César fut nommé consul pour la troisième fois et s'adjoignit Lépide. Voilà comment ce Lépide, homme médiocre, grandit peu à peu de façon à devenir le collègue d'Antoine et d'Octave dans le second triumvirat. Il y eut plus. César fit venir Antoine et lui fit sur ses désordres une telle leçon que celui-ci, pour en prouver son repentir, résolut de se marier. César haussa les épaules. « Antoine, dit-il, est l'homme des extrêmes. » Antoine se maria. Il épousa, nous croyons l'avoir déjà dit, Fulvie, veuve de Claudius. Nous l'avons vu apparaître, appelant les Romains aux armes, lors de l'assassinat de son mari, éclairée qu'elle était par les torches qui incendiaient un quartier de Rome. Fulvie, dit Plutarque, était une femme peu faite pour les travaux et les soins domestiques, et dont l'ambition eût été fort peu flattée de maîtriser un mari simple particulier, mais qui aspirait à dominer un homme qui commandait aux autres et à donner des ordres à un général d'armée. Aussi est-ce à Fulvie que Cléopâtre fut redevable des leçons de docilité qu'avait reçues Antoine, car c'est Fulvie qui le livra si souple et si soumise aux volontés des femmes. Dolabella pardonné, Cornificius morigéné, Antoine tensé et marié, César se tourna du côté des soldats. Une légion s'était révoltée et, dans une émeute, avait tué deux personnages prétoriens, Cosomius et Galba. César avait envoyé les rebelles en Campanie et leur avait donné ordre de se tenir prêts à partir pour l'Afrique. Le moment venu, il leur expédia l'ordre de s'embarquer. Mais comme il leur était dû un arriéré, les soldats, au lieu d'obéir, se mutinèrent et marchèrent vers Rome. César, au lieu d'envoyer au-devant d'eux d'autres soldats qui eussent pu suivre leur exemple et se joindre à eux, les attendit. Puis, lorsqu'ils furent au faubourg de Rome, il alla à leur rencontre. César avait l'habitude d'appeler ses hommes « mes amis »,« mes compagnons » ou « soldats ». Citoyens, dit-il. À ce seul mot de citoyens, qui leur indiquait qu'ils n'étaient plus ni les amis ni les compagnons de César, qu'il les dépouillait du titre même de soldats, ils furent atterrés. Citoyens, dit César, votre réclamation est juste. Vous avez 5 ans de fatigues et de blessures, je vous délie de vos serments. Ceux qui ont fini leur temps seront payés jusqu'au dernier sesterce. Alors tous ces hommes mutinés et menaçants passèrent de la menace à la prière, tombant à genoux, joignant les mains et suppliant César de leur permettre de rester avec lui. César fut inflexible. Il leur assigna des terres, mais éloignées les unes des autres, leur paya une partie de l'argent qui leur était dû et s'engagea d'acquitter le reste avec des intérêts. Mais eux s'obstinaient à le suivre, et quelle que fût sa résolution, en les retrouvant au bord de la mer, à leur entendant dire qu'il passerait par l'Espagne s'il le fallait pour l'accompagner en Afrique, il finit par leur pardonner. Cependant, César avait compris qu'il y avait quelque chose de juste dans la réclamation de ses soldats. Il leur était dû près de 2 ans de solde. Tous les conquérants ont eu de ces comptes à régler avec leurs légions. On se rappelle cette revue que passaient des vétérans de l'Empire, Monsieur le duc de Berry. Au nombre des griefs que, selon lui, les soldats avaient à reprocher à l'empereur, était l'irrégularité de la paix. « Enfin, dit le prince, terminant son discours, il vous a été dû jusqu'à 2 ans de paix. »«
Et s'il nous plaisait de lui faire crédit, répondit un grognard, qu'avez-vous à dire à cela, vous ?»
Mais alors Napoléon n'était plus là. Ces mêmes hommes, à qui il plaisait de lui faire crédit quand il était relégué à l'île d'Elbe ou prisonnier à Sainte-Hélène, ces mêmes hommes murmuraient parfois, comme les soldats de César, au temps de sa toute-puissance et quand la solde se faisait attendre. César résolut donc de payer. Il donna à ses vétérans, outre 2 grands sesterces, 400 francs, 24 000 sesterces par tête, 4 000 francs. Il leur donna les terres que nous avons dites. Puis vint la part du peuple. Il distribua à chaque homme 10 boisseaux de blé, 10 livres d'huile. Et comme il y avait 1 an que la promesse était faite, il ajouta 100 sesterces pour les intérêts. De plus, il remit le loyer des maisons dans Rome jusqu'à concurrence de 2 000 sesterces et dans le reste de l'Italie jusqu'à concurrence de 500. Enfin, à tous ses dons, il ajouta un festin public et une distribution de viande.